Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous et relations. Au programme, la suite de la lecture de Un dernier toit à fort prix et les barrières invisibles. Bonne écoute.
Vous écoutez « Un dernier toit à fort prix », un texte de Marie-Ève Schaffer, journaliste, et Tico Arena, chargé de projet, paru dans l'édition de février 2023 de la revue « Protégez-vous ». En plus du type de RPA, la localisation a également une incidence sur le prix. Notre enquête démontre que les loyers moyens sont généralement plus élevés dans les régions de la capitale nationale, de Montréal et de l'Outaouais. La SCHL est arrivée à la même conclusion dans une étude parue en 2021. Mince consolation. Le loyer moyen des RPA du Québec, 1 922 $, est inférieur à celui des habitations pour personnes âgées de la Colombie-Britannique, 3 541 $, de l'Alberta, 3 404 $, et de l'Ontario, 3 999 $, notamment selon la SCHL. Le Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA, explique cette différence par le fait que le réseau des RPA est plus développé au Québec. La compétition est ainsi plus féroce entre les joueurs de l'industrie. Des services personnels qui gonflent la facture. Le montant mensuel que réclament les RPA à leurs locataires inclut le coût de location d'une chambre ou d'un logement ainsi que les frais afférents, chauffage, télécommunications, système d'appel à l'aide, etc. À cela s'ajoute le prix de tous les services personnels qui sont compris dans le bail ou qui sont facturés à la carte, comme la préparation de repas, la distribution de médicaments, l'entretien ménager et les soins infirmiers. Ces services peuvent faire grimper rapidement la note quand les gens perdent peu à peu leur capacité. Quand l'état de santé de l'aîné s'aggrave et que celui-ci a besoin de plus de soins, la facture augmente d'une façon phénoménale. Ce n'est pas rare de voir des frais de 6 000 $ par mois, mentionne Raoul Charbonneau, président de l'Association des comités de résidents officiels du Québec, ACROC. L'ACROC demande que les RPA rendent publics les tarifs des services personnels qu'elles offrent. En plus d'accroître la compétitivité entre les résidences, une telle transparence permettrait de mieux renseigner les aînés et leurs familles, selon Raoul Charbonneau. Le réseau FADOC propose plutôt que le gouvernement du Québec impose un encadrement de ses prix. Trop souvent, les propriétaires jouent sur ces services pour faire augmenter la facture, dit Philippe Poirier-Monette, conseiller spécial aux relations gouvernementales au réseau FADOC. Quand le tribunal du logement s'en mêle. Fait à noter. Contrairement aux ressources intermédiaires et aux CHSLD, les RPA doivent respecter les règles du Tribunal administratif du logement, TAL. Celui-ci est appelé à trancher si le locataire conteste la hausse des montants compris dans le bail, loyer, services personnels et non personnels, et que le locataire présente une demande de fixation de loyer. Si les services sont facturés à la pièce, le TAL ne peut pas intervenir. Selon Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA, cette situation n'a aucun sens. Le TAL ne connaît rien aux soins ni à l'alimentation, clame-t-il. Le RQRA réclame une grille de loyer adaptée au RPA. Entre 35 et 55 % des frais d'exploitation mensuels d'une RPA découlent de la main-d'œuvre. mais les RPA sont jugés comme un immeuble à logement qui n'offre aucun soin ni service de repas et dont les dépenses mensuelles en main-d'œuvre sont de moins de 4 % déplore le PDG du RQRA. Les besoins des aînés mériteraient d'être mieux compris, selon le réseau FADOC, qui appelle également à des changements au TAL. L'organisme propose d'y créer une équipe spécialisée. Elle compterait des employés et des juges qui auraient des connaissances pointues sur les services offerts dans ces résidences. Des augmentations de loyers brutales. Pour Normand, le bien-être de sa mère, âgée de 91 ans, est primordial. Elle habite dans une RPA au nord de l'île de Montréal. « C'est une belle place, ma mère est bien », dit le fils attentionné, qui n'a pas l'intention de la déménager même s'il est furieux contre la direction de la résidence. En avril 2021, on a signé le bail qui incluait des services d'aide à l'hygiène et à l'habillement. Dès que ma mère s'habille, se déshabille ou se lave, il y a quelqu'un à ses côtés. En novembre 2021, on nous a proposé de nouveaux soins en nous disant que ma mère n'était plus capable de s'habiller toute seule. Résultat, le loyer passait de 4 200 à près de 5 600 par mois à cause de services dont elle bénéficiait déjà. Normand a refusé la hausse. La RPA a tenté de résilier le bail et d'expulser l'aîné, mais le TAL a refusé. Pas moins de 18 % des répondants à notre sondage ont dû encaisser une hausse de loyer de plus de 4 % entre août 2021 et août 2022. Raoul Charbonneau de Lacroc fait valoir que les hausses accordées par le TAL sont bien moindres, soit en moyenne de 3,1 % par an, de 2013 à 2021. Pour le RQRA, ces hausses de loyer témoignent de la détresse de ses membres. Les revenus ne suivent pas les dépenses, dit Marc Fortin, président-directeur général, en évoquant l'explosion des coûts liés à l'alimentation, à la main-d'œuvre et aux assurances. À tel point que près de 300 résidences ont fermé leurs portes depuis janvier 2021. Vous écoutez Un dernier toit à fort prix. Un texte de Marie-Ève Schaeffer, journaliste, et Tico Arena, chargé de projet, paru dans l'édition de février 2023 de la revue Protégez-vous. Bisbille autour de la clause F. Les RPA qui viennent tout juste d'ouvrir leurs portes peuvent toutefois hausser les loyers à leur guise pendant 5 ans, sans craindre une décision du TAL. Les locataires en sont avisés dans la clause F du bail. Francine, 74 ans, a réservé son logement dans une RPA de la Capitale-Nationale en 2017, mais elle n'a déménagé qu'en 2019, au moment où la résidence accueillait ses premiers locataires. Depuis, les prix ont explosé. Par exemple, les frais mensuels pour la préparation d'un repas par jour sont passés de 295 $ en 2019 à 473 $ en 2022. On nous a piégés en nous attirant avec des prix alléchants, fulmine Francine. Le réseau FADOC demande que la clause F du bail ne vise plus les RPA. La RQRA juge au contraire que la clause F est nécessaire pour protéger les investissements des promoteurs immobiliers. Des frais jugés abusifs. En plus des augmentations de loyers dénoncées par les résidents de RPA et leurs familles, il y a ces frais qui témoignent d'une facturation pour le moins créative. Le président de Lacroc donne en exemple le montant que réclament des RPA pour remplir le formulaire du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Selon lui, cette tâche exige environ 10 minutes du temps d'un employé tous les ans. Or, certaines résidences incluent des frais mensuels de 20 $ dans le bail, c'est-à-dire 240 $ par année, dénonce Raoul Charbonneau. Les répondants à notre sondage ont donné d'autres exemples de frais qu'ils jugent excessifs, 2 $ par repas pour le prendre ailleurs qu'à la salle à manger, ou 17 $ pour monter un lourd colis à un logement. Un proche aidant a même raconté que sa mère a déboursé 20 $ pour obtenir un verre d'eau qui venait de son propre réfrigérateur. Lorsqu'il entend ce dernier exemple, Marc Fortin du RQRA sort de ses gonds. Les RPA qui font ce genre de choses, je les mets dehors du regroupement, lance-t-il. Le réseau FADOC estime que le gouvernement du Québec devrait dresser la liste des services qui peuvent être facturés par les RPA pour éviter les mauvaises surprises. Ainsi, le remplacement d'une ampoule ne devrait pas y figurer puisque cette tâche fait partie de l'entretien régulier. Or, des résidences demandent 30 $ pour changer une ampoule, selon la CROC. Les recours. Les aînés insatisfaits des services qui leur sont rendus ont des recours. Ils doivent d'abord surmonter leur crainte de représailles. Une quinzaine de répondants à notre sondage ont avoué redouter les conséquences s'ils adressent des critiques aux dirigeants de leur RPA. Raoul Charbonneau de la CROC n'est pas surpris. Les gens paient, se taisent et subissent jusqu'au moment où ils n'en peuvent plus financièrement, dit-il. Depuis 2019, les résidents de RPA qui se sentent lésés peuvent faire appel gratuitement et en toute confidentialité au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, CAAP, de leur région. Leur doléance peut concerner autant le bail et la qualité des services que la certification de conformité du MSSS que doivent détenir les RPA. Notre rôle, c'est vraiment d'épauler les aînés dans le processus. Nous ne donnons pas de conseils juridiques, explique Sébastien Harvey, conseiller soutien aux membres à la Fédération des CAAP. Les intervenants des CAAP, qui sont pour la plupart des travailleurs sociaux, peuvent, entre autres choses, informer les personnes âgées de leurs droits, les aider à remplir un formulaire et les guider au cours des procédures devant les trois instances qui suivent. Comité de milieu de vie, c'est quoi? Ce comité, qui rassemble des résidences et de proches aidants, engage un dialogue avec le propriétaire ou le gestionnaire pour discuter des problèmes et trouver des solutions. Il fournit également des informations sur les recours possibles et offre du soutien aux aînés qui optent pour cette stratégie. D'ici au 15 décembre 2023, les résidences qui comptent plus de 99 unités doivent créer un tel comité. Les plus petites RPA n'auront pas cette obligation, mais elles ne pourront pas empêcher les aînés d'en former un. Les résultats. Pour Raoul Charbonneau de la CROC, ces comités peuvent freiner les abus envers les aînés puisque ceux-ci expriment leurs doléances de façon confidentielle. C'est un outil gagnant-gagnant, soutient-il. Dans la RPA où il habite, à Drummondville, ce comité a d'ailleurs obtenu un gel des loyers pendant un an pour compenser la suspension des services durant les confinements. Le RQRA souligne de son côté que les résidences collaborent au fonctionnement de ces comités, notamment en prêtant des salles, mais qu'elles reçoivent aussi des plaintes à leur sujet, en raison du militantisme exacerbé de certains membres. Commissaire à la qualité des services, c'est quoi? Nommé par le conseil d'administration du CI3S ou du CIUS, il reçoit entre autres les plaintes des résidents de RPA qui portent sur les services de santé et les services sociaux offerts par la résidence, ainsi que leurs doléances en lien avec la certification de conformité. Les résultats. Le commissaire à la qualité des services détient un pouvoir de recommandation auprès du dirigeant de la RPA. Il alerte la direction du CI3S ou du CIUS en cas de non-respect des exigences de la certification de conformité. Si l'aîné ou sa famille n'est pas satisfait de la décision du commissaire, le protecteur du citoyen peut, dans un deuxième temps, entendre la plainte. Dans le cas où elle est retenue, il fait pression sur la RPA ainsi que sur le CI3S ou le CIUS pour que des changements soient apportés. Dans son rapport annuel 2021-2022, le protecteur du citoyen rapporte que des RPA refusent de se conformer à des exigences de la certification de conformité, ce qui compromet la qualité de vie des locataires. Il propose d'instaurer une gradation de moyens qui serait à la disposition des CI3S et des CIUS, dont l'ultime serait la fermeture de l'établissement. Tribunal administratif du logement, TAL, c'est quoi? Ce tribunal est appelé à trancher les différends qui surviennent entre un locataire et un locateur en lien avec le bail, autant en ce qui concerne le loyer que les services compris dans l'annexe 6. Les résultats. Le TAL est saisi de plusieurs types de demandes. Non-paiement de loyer, fixation ou révision de loyer, reprise de logement, expulsion, résiliation de bail, etc. Un juge administratif rend une décision qui est par la suite transmise aux locataires et aux locataires. Depuis 2021, des aînés qui vivent dans la même RPA peuvent présenter une requête conjointe, notamment pour réclamer une baisse de loyer à la suite d'une réduction ou d'une suspension des services compris dans le bail. C'était un dernier toit à fort prix. Un texte de Marie-Ève Schaffer, journaliste, et Tico Arena, chargé de projet, paru dans l'édition de février 2023 de la revue Protégez-vous.
Les barrières invisibles, un texte de Maya Ombazic paru dans la revue Relations dans le numéro 818, automne 2022. L'auteur, écrivaine, a entre autres publié le roman Dans les murs. Dans le texte suivant, elle nous présente des personnes dont le vécu permet de penser à nouveaux frais la notion de frontière. Carlos, un musicien colombien, raconte sa traversée irrégulière de la frontière canado-américaine avec les yeux d'un non-voyant. Si ce n'était de sa situation socio-économique compliquée et de la violence qui la déchire depuis des décennies, la Colombie serait un paradis sur Terre. L'histoire et la culture y sont d'une grande richesse, la musique et la gastronomie marquées par des influences diverses, les gens chaleureux, le climat agréable et les paysages magnifiques. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Dans ce pays, les personnes les plus vulnérables n'ont trop souvent même pas l'occasion de décrier l'injustice qui s'abat sur elles. Un peu comme ce poupon né prématurément et à qui on a oublié, par simple négligence du personnel de la maternité, de couvrir les yeux, ce qui finira par lui brûler la rétine et par faire de lui un aveugle non pas de naissance, mais de malchance. Ce poupon, c'était Carlos. Il n'était qu'une petite crevette de 6 mois à qui le monde se présentait sous forme de flash quand le rideau de l'obscurité tomba à jamais sur sa vie. Selon ses propres dires, c'est peut-être mieux comme ça, car s'il avait vu la lumière, il en aurait sans doute été nostalgique toute sa vie. Ne l'ayant jamais perçue, elle peut difficilement lui manquer. Mais est-ce possible de regretter ce que l'on ne connaît pas? Seul Platon, le grec le plus éclairé, aurait pu poser aussi étrange question. Pour lui, nous portons toutes les connaissances en nous, il suffit de s'en ressouvenir. Mais pour cela, il faut convertir le regard, laisser les apparences et le monde extérieur entre les mains de la doxa et chercher la lumière, la connaissance et la vérité à l'intérieur de nous-mêmes. L'affaire semble simple, mais en réalité, elle ne l'est pas. À moins d'être un philosophe né comme Carlos. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Carlos ne voudrait surtout pas voir, maintenant qu'il est arrivé au mi-temps de sa vie et qu'il a compris tant de choses sur sa condition qu'il considère comme un privilège. Comme Platon, il pense lui aussi que nous sommes porteurs de toutes les connaissances et que même lorsqu'on n'a jamais contemplé la lumière du jour avec nos propres yeux, elle est en nous. Un autre regard sur la frontière. Depuis son enfance, la persévérance ou la cabeza dura, la tête dure, est le trait le plus marquant de la personnalité de Carlos. Au cours de sa jeunesse, le jeune mélomane surdoué se butait constamment aux préjugés. Même à la renommée Universidad del Valle, à Cali, personne ne voulait lui enseigner le piano parce que c'était compliqué d'enseigner la musique à des gens comme lui. Cela motiva en grande partie sa famille à tenter sa chance au pays de l'oncle Sam. Connaître un pays par tous les autres sens à part la vue, c'est ressentir, sans filtre, la vibration du lieu à son état le plus pur. Carlos ne mettra donc pas beaucoup de temps à se rendre compte que les États-Unis ne l'intéressent pas. Ni le climat de West Palm Beach, en Floride, ni la présence d'une grande communauté d'Hispano-Américains qui parlent sa langue et partagent une certaine culture commune n'arrivent à le convaincre de rester. Il ira au pays de l'hiver, là où on lui a dit que la lumière était éclatante 6 mois par année. C'est ce qui l'appelait. Il faut déjà un courage hors norme pour se décider à traverser clandestinement, à ses risques et périls, la frontière canado-américaine afin de demander l'asile. Mais comment qualifier ce courage lorsque cette décision est prise par une personne non-voyante? En compagnie de son chien et de 2 autres comparses nés du mauvais côté de l'histoire, Carlos tentera sa chance une première fois près de la colle. Ils seront découverts par les gardiens de la loi du côté américain, ceux qui ressemblent, par leur vibration, aux chiens enragés, assure Carlos. Les malheureux clandestins seront remis aux autorités américaines puisque c'était leur dernière destination et seront jugés puis finalement relâchés par les juges de l'immigration qui leur suggéreront de retenter la chance au pays de Disneyland. Car selon les magistrats, tout est possible. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Oui, tout est possible, pensa Carlos, comme tenter sa chance une 2e fois pour passer du côté canadien, afin de vivre au pays de la poudrerie et de l'éternel éclat blanc. C'est exactement ce qu'il fera. 2 tours à nouveau, direction le nord magnétique pour la 2e fois. Un désir renforcé par la meilleure vibration qu'il perçoit au contact des gardiens de la loi du côté canadien. Pas des chiens enragés, seulement des humains qui tentent de servir avec dignité d'autres humains en détresse. Je suis têtu, je le sais, mais j'ai basé mes choix de vie sur des considérations rationnelles auxquelles d'autres ne pensent pas, comme le transport en commun. Aux États-Unis, les non-voyants dépendent des autres pour se déplacer. Au pays de la blancheur éternelle, il m'est possible de prendre seul le bus, de sortir au milieu d'une rue silencieuse ralentie par une tempête de neige et de sentir le bonheur de mon chien lorsqu'il se roule dans la neige. Et ça, ça n'a pas de prix. Ce sont des considérations d'un autre type, mais elles sont vitales. Comme est vitale la première impression. Une fois traversée la frontière canadienne, le plan initial était d'aller en Ontario pour visiter une amie colombienne et rester près d'elle. Mais lorsque Carlos a ressenti pour la première fois les ondes vibratoires de Montréal, il a eu l'impression que la ville l'embrassait, l'enveloppait et l'accueillait, comme si elle était sa 2e mère. Une mère patrie, la vraie. À l'instar de tous les coups de foudre, ce fut immédiat, total, entier, sans équivoque. C'est sans doute ce qui lui fait dire, même des années après, « Vivo enamorado de Montréal, a pesar de todo. » Je ne cesse de tomber amoureux de Montréal, malgré toutes les difficultés. Car des difficultés et des barrières invisibles, il y en a eu et il y en aura toujours, comme celles qu'on dresse régulièrement devant Carlos en réduisant ses possibles aux formulaires et subventions gouvernementales et leurs nombreuses conditions. Aller à gauche plutôt qu'à droite, parce qu'étant limité, c'est là que se trouvent les programmes spécialement conçus pour lui. Aller à tel atelier pour apprendre comment chercher de l'emploi, plutôt que d'en trouver. Aller à telle école de francisation plutôt qu'à une autre, parce que c'est mieux pour lui. Aller dans un groupe pour les non-voyants pour apprendre comment se connecter à ses émotions. Ce qui est le mieux pour moi, c'est de ne pas me mettre toutes ces barrières, parce que, paradoxalement, je les vois partout. Ricane, mi-sarcastique, mi-sérieux, celui qui est tout de même reconnaissant d'avoir pu accéder à la citoyenneté canadienne malgré les nombreux obstacles administratifs auxquels il a dû faire face. Le courage de traverser clandestinement la douane canadienne quand on est non-voyant est un exploit en soi. C'est pourquoi, précise-t-il, j'aimerais qu'on me laisse seulement exploiter tout m'est possible. De l'autre côté de la vue. Souvent, on lui demande s'il ne rêve pas de retrouver la vue grâce aux avancées technologiques. Surtout pas. Je ne veux pas voir, moi, je veux ressentir, découvrir le monde par mes autres sens. Selon lui, il a, d'une certaine façon, été choisi pour ressentir le monde différemment. Un jour, une amie lui parle de la célèbre nouvelle de Jorge Luis Borges, El Otro, l'autre, dans laquelle l'aveugle et prolifique écrivain argentin s'imagine rencontrer son double, c'est-à-dire lui-même, mais beaucoup plus jeune. Malgré les conseils de l'aîné, le jeune n'écoute pas. Il faut inévitablement qu'il passe par le même chemin pour apprendre. Tu veux savoir ce que le Carlos d'aujourd'hui dirait au Carlos d'hier? Il lui dirait ceci. Sois conscient et reconnaissant du cadeau que la vie t'a fait de ne pas voir. Les yeux, c'est un cadeau empoisonné, parce que les gens qui voient regardent seulement la surface des êtres et des choses. Voir, c'est donc ne pas voir l'essentiel dans un monde rempli de frontières invisibles. Or, il y a tant de choses à ressentir dell'otro lado de la vista, de l'autre côté de la vue. À la question s'il avait déjà entendu parler du soleil intelligible de Platon, le surdoué musicien répond « Non, mais je sens que c'est un soleil métaphorique, celui qui m'est donné à voir au quotidien. » C'est aussi le plus vrai. C'était « Les barrières invisibles », un texte de Maya Ombazic paru dans la revue Relations, dans le numéro 812, automne 2022.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission rendue possible grâce à Robert Lepage et Luc Mercure à la lecture, Francine Thériault et Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.